Bon ben, on va pas trop attendre, on va commencer. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Estelle et moi avons commencé il y a 2 semaines à travailler avec soit la corde ou moi je suis ici aussi, je vois pas mal les activités qui se font à la corde. Donc on est pas mal heureux d'être enfin en chair et en os avec vous ici et de participer à la belle mission qui se passe dans ce quartier. Donc on est content aussi d'apprendre aussi à vous connaître de plus en plus. J'ai eu la chance personnellement de travailler avec Denis, avec l'équipe de J2 un petit peu, j'étais à leur rencontre, Michel, Mimi, etc. Donc, toute la gang de Nouvelle Vision qui fait la banque alimentaire. Puis, c'est vraiment un plaisir pour moi de commencer de plus en plus à vous connaître puis à travailler ensemble pour ce beau ministère qui se passe ici. C'est un privilège aussi pour moi d'apporter la parole ce matin. J'étais vraiment béni de voir le thème que Michel a porté, alors que moi et ça, on arrivait dans le portrait. C'était quel thème? Voir si vous écoutez bien. Nous? OK, 3 petits points. Nous, le rêve de Dieu, l'Église, je bâtirai mon Église. Et je trouve que c'est un thème vraiment pertinent alors que moi, j'entre dans le ministère à temps plein et que vous, vous recevez un nouvel ouvrier à temps plein. Je trouve que c'est très pertinent qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce que l'Église selon le plan de Dieu, comment est-ce qu'on devrait faire l'Église selon la parole de Dieu. Et avant même que j'arrive ici, j'étais en train de lire un livre qui s'intitule « Faire l'Église en équipe ». Et ce livre-là, dans ce livre-là, Wayne Cordero dit ceci, je trouve ça très bien, il dit « L'Église n'a pas besoin d'une personne qui fait 100 choses, mais de 100 personnes qui font une chose et qui le font du mieux qu'elle peut ». Et c'est mon désir que notre venue à Moyessa dans cette église puisse mobiliser, vous équiper, vous stimuler à faire encore plus cette belle œuvre de Dieu que vous avez déjà eu à cœur de faire en déménageant dans ce quartier ici. Amen. Et ce matin, j'ai décidé de pas faire mon pouce, vous vous souvenez? À part ou d'aller dans une autre direction, j'ai décidé de faire comme un des 4 autres doigts puis d'aller dans la même direction que Michel, à savoir de prêcher sur le même thème, celui de l'Église, celui de la communauté et de l'unité dans la diversité. Donc, ce matin, le passage que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un passage qui est juste à côté de celui que nous avons vu la semaine passée, l'autre d'avant, qui est dans Éphésiens. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Éphésiens 3, nous allons lire ensemble puis on va approfondir la prière que Paul a faite juste avant de parler de l'unité de la foi, de parler de l'unité mais de la diversité aussi qu'on retrouve dans l'Église. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ah, ok, tu vois. Ok, super. Donc, nous allons lire ensemble les versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tu peux avancer de... Ah, super. Bon, je l'avais ici, mais nous l'avons lu. Je trouve que c'est vraiment une belle prière, et j'aimerais qu'on l'approfondisse ensemble pour, dans une perspective aussi du chapitre 4 qui a été déjà prêché par Michel, qui concernait l'Église, l'unité dans la diversité. Puis, une des choses que j'aime, c'est que c'est une prière que Paul fait, qu'il fait lorsqu'il considère la grandeur, la splendeur du message dont il est le porteur, puis aussi de son ministère. Il arrive, après avoir considéré pendant 10 versets tout ce qu'il est en train de faire pour Dieu, il tombe spontanément à genoux et il se rend compte que ça le dépasse. Ce genre de travail qu'il est appelé à faire, c'est un travail que seul Dieu peut faire, seul Dieu peut opérer dans le cœur des gens. Et il réalise alors sa pleine dépendance à Dieu et il se met à genoux. Il dit, et il commence sa prière. C'est la réalisation que l'œuvre de Dieu peut se faire seulement par son esprit en nous. Ça peut pas se faire par les conseils d'un psychologue, ça peut pas se faire par les nouvelles idées d'un philosophe ou même la nouvelle connaissance que les scientifiques apportent. C'est seulement Dieu qui peut révéler son amour dans nos cœurs et ça va rendre possible le fait qu'on va être unis ensemble et qu'on va apporter notre don unique à l'Église. Et moi, je trouve ça vraiment bien de voir ça parce que en même temps, notre propre dénomination a été fondée avec cette valeur-là de la prière. Je vais lire un passage que j'ai trouvé dans un livre de Abby Simpson qui dit ceci. En 1990, les membres de l'Alliance missionnaire n'accomplissaient pas la tâche pour laquelle ils s'étaient constitués en organisation. Au bout de 3 ans d'existence, de 1887 à 1890, l'Alliance missionnaire parvenait à peine à réaliser le but qu'elle s'était proposé. Non seulement les dons étaient maigres, mais on comptait peu de candidats missionnaires. La situation devait être renversée. Là, ça, c'est quand Abbé Simpson était sur la scène, lui qui a fondé notre dénomination. Donc, il y a un problème, ça fait 3 ans qu'on fait le ministère, qu'on s'est unis tous les chrétiens pour valoriser la mission, pour prier ensemble pour que Dieu fasse de grandes choses, qu'on puisse envoyer des missionnaires. Et après 3 ans, c'est quoi le compte rendu? Il y a plus de personnes qui veulent partir en mission, puis on n'a même pas l'argent pratiquement pour les envoyer. On réussit pas à faire ce à quoi on est appelé. Quand j'ai lu ça dans le livre, je me suis dit, ça m'a frappé parce que avec Ride 2012, on a pu trouver les fonds pour m'engager 3 ans. Puis là, je me suis dit, au bout de 3 ans, eux, c'était quoi leur constat? On fait pas la job. Ben moi, je me suis dit, hey, au bout de 3 ans, je veux pas faire le même constat, right? Fait que j'ai vu ce qu'il a fait à Bismson, je trouvais ça très inspirant. Le 29 juillet 1890, je suis pas habitué de parler dans les années 1800, Monsieur Simpson, associé à la foi à la prière, et mis ses auditeurs au défi de signer une carte d'engagement, la première à avoir jamais été présentée aux membres de l'Alliance. Il nomma un secrétaire à la tête de ce qu'il appelait l'Alliance de prière, afin de classifier les réponses. Des milliers de signatures furent recueillies. Abbé Simpson est arrivé à un point où est-ce que il a tombé à genoux comme Paul. Il s'est dit, le travail que j'aimerais voir se réaliser, c'est seulement par la puissance de Dieu que ça va se faire. Et pour ça, il faut qu'on soit unis dans la prière. Il faut qu'on marche d'un seul pas dans la prière. Et c'est comme ça que Dieu va déverser sa puissance, qu'il va faire quelque chose de surhumain. Et voici les résultats. Quels en furent les résultats? L'année suivante, en 1891, les écluses de la consécration et des dons s'ouvrirent toutes grandes. À la fin de l'année, l'Alliance missionnaire avait nommé 100 missionnaires et avait reçu les fonds nécessaires à leur transport et à leur soutien. Dès 1897, plus de 350 missionnaires s'étaient mis en route vers les rivages étrangers et les églises de l'Alliance se multipliaient dans toute l'Amérique du Nord. Wow! Moi, je veux ça. Moi, je veux voir la puissance de Dieu à l'œuvre, que dans 3 ans, on puisse, en tant qu'assemblée, en tant que communauté de foi, considérer toute l'œuvre que Dieu a faite parmi nous au cours de notre 3 ans ensemble. Et pour ça, par exemple, ça nous prend un engagement personnel et collectif à la prière. Et ça me réjouit de voir l'initiative de notre frère et notre sœur qui, le dimanche matin, veut qu'on prie ensemble. Ça me réjouit aussi de voir les cellules. Il y a des cellules dans cette église, il y en a plusieurs, qui visent justement à l'édification, mais aussi à la prière. Et c'est mon encouragement, c'est mon exhortation qu'on puisse, en tant que communauté, vraiment être engagé, quotidiennement prier que le Seigneur bénisse ce projet, bénisse nos efforts, puis qu'on puisse voir son esprit transformer l'intérieur des gens. Que ce soit vraiment un travail manifeste qui va porter du fruit, et qu'on va voir aussi les dons, les gens mettent leurs dons au profit de l'Église, tout cela dans une belle unité. Fait que c'est ma prière, et je trouve que celle de Pierre, de Paul, elle est vraiment inspirante à ce niveau. Donc, première chose que j'aimerais qu'on fasse en tant qu'assemblée, et que je vois aussi dans les Actes des apôtres, c'est la persévérance dans la prière. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux à la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans la chambre haute et ils étaient en prière. Lorsque Pierre a été mis en prison, que les persécutions commençaient, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens se sont réunis dans des maisons puis ils priaient de façon instante pour Pierre. Et là, finalement, le Seigneur a répondu et eux-mêmes étaient surpris de voir la réponse à leur prière. Ils croyaient même pas que Pierre était vraiment délivré de la prison. Continuellement, tout au long des Actes des apôtres, on voit que la prière faisait partie de la vie de l'Église primitive. C'était vraiment important. Un autre élément qui faisait partie de la vie de l'Église primitive, c'était le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On voyait vraiment que c'était le Saint-Esprit qui donnait la direction et qu'eux suivaient. Dans la prière que nous avons lue, je vais relire les versets 16, 17 et 18 ensemble. Donc, Paul prie afin que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc, on voit vraiment que sa prière, c'est que ce soit pas sa force de persuasion, ce soit pas son style attractif de prédicateur qui fasse en sorte que les gens bougent. Non, sa prière, c'est que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même dans le cœur des gens, qui les motive, qui les touche, qui les remplit de compassion et que ce soit cette force-là qui soit leur motivation. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir l'aspect, à quel point il y a l'aspect trinitaire dans toute, non seulement dans la prière, mais aussi dans toute la lettre des Éphésiens. Regardez ceci ensemble avec moi. Verset 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et au verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je vais donner plein d'autres exemples avant, après, de l'aspect trinitaire de la foi des premiers chrétiens. Lorsque Jésus est arrivé sur la scène, les Juifs avaient à l'époque une conception, je pourrais dire monothéiste, qui est encore la nôtre, mais plutôt qu'il y avait une seule personne en Dieu. Et on voit que ça a été complètement chamboulé avec la venue de Jésus, par exemple au baptême. Lorsque Jésus prie le Père, on voit le Saint-Esprit qui descend, on voit l'action de Dieu qui se manifeste tout le temps par l'entremise de trois personnes différentes. Et c'est vraiment important, je vais donner tantôt deux raisons pour lesquelles c'est pas juste une doctrine théorique, théologique, mais ça a des répercussions pratiques. Mais avant d'aller considérer ces deux raisons-là, j'aimerais juste vous démontrer à quel point c'était vraiment présent dans l'expérience des premiers chrétiens. Ils pensaient tout le temps à le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Regardez avec moi le chapitre 2, versets 17 et 18. Donc, il, c'est Jésus. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, Jésus encore, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Toujours par Jésus, dans l'esprit, près du Père. Mon église, c'était l'inverse, les boutons, ça mélange. Donc, regardez avec moi le chapitre 4, le chapitre que Michel a prêché la semaine passée, les versets 4 à 6. Encore là, on voit les trois qui sont là. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, et dans le Nouveau Testament, 99% du temps qu'on parle du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a un seul Seigneur, Jésus, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, on voit encore là, Esprit, le Fils et le Dieu qui est Dieu le Père. Juste pour vous donner un exemple, que Jésus est toujours, quand on parle du Seigneur, on fait tout le temps référence à Jésus, ou presque. Regardez le verset 11 du chapitre 3.
selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur. » À la prochaine fois que vous lisez le Nouveau Testament, considérez ceci. La plupart du temps dans le Nouveau Testament, comme je viens de dire, quand on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Puis souvent, pas tout le temps, mais souvent, quand on parle de Dieu, on parle du Père en réalité. Et quand on voit ça, des fois, Paul ou les autres apôtres vont juste passer de Dieu au Seigneur, puis tout ça, puis ils vont ramener d'esprit. Mais il y a tout le temps cette Trinité qui est tissée au milieu de son discours, de son expérience. Et puis, c'est en ça que je crois qu'on peut parler jusqu'à la plénitude de Dieu, comme il le fait dans sa prière. J'aimerais lire avec vous ce verset-là, verset 19 du chapitre 4, qui est comme un peu l'aboutissement de sa prière. Ah, excusez, merci. Donc, il prie afin qu'on puisse connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, encore, j'ai tout le temps tendance à reculer. Ça va prendre du temps. Et là, il y en a d'autres. C'est vraiment, on ne le lira pas, mais il y en a d'autres. Vous pourriez continuer à chercher à voir ça. Il y a tout le temps l'aspect trinitaire qui est tissé dans l'Épître. Est-ce que vous avez déjà entendu cette idée-là que, dans le fond, les chrétiens auraient inventé la doctrine, la Trinité, sous Constantin, 300 ans plus tard? Est-ce que vous avez déjà entendu cette pensée populaire-là? C'est totalement faux. On le voit dans les Écritures, partout dans le Nouveau Testament, que la foi des chrétiens, c'est une foi qui est trinitaire. Et puis ça a des répercussions pratiques. En voici deux exemples. Premièrement, Dieu peut être amour dans sa nature seulement s'il est trinitaire. Pourquoi? Parce que aimer implique nécessairement un acte interpersonnel entre deux personnes. Vous êtes d'accord? Je peux pas m'aimer moi-même. On appelle ça juste l'égoïsme. C'est juste centré sur soi. C'est pas de l'amour. Pour aimer, il faut être en relation avec une autre personne. Et il faut, pour ça, être au moins deux. Dieu, en lui, il est trois. Il est trois personnes. Et en cela, on peut dire que Dieu est amour parce que le Fils peut aimer le Père peut aimer le Saint-Esprit et vice-versa. Et quand on considère que tout le passage parle d'amour, parle d'être enraciné et fondé dans l'amour, ça devient très intéressant. Deuxième point, la diversité dans l'unité reflète donc l'être même de Dieu. Lorsqu'on parle dans le chapitre suivant qu'il y a un seul esprit, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul baptême, une seule foi, etc., mais que tout après on parle de la diversité des dons, c'est beau de voir que dans le fond, quand nous faisons ça, que nous sommes différents et que malgré nos différences, qu'on se respecte et qu'on travaille ensemble dans un même but, on reflète qui Dieu est, car Dieu est trinitaire, Dieu est trois, mais en même temps, il n'y en a jamais un qui va décider de travailler dans le sens contraire de l'autre. Ils sont unis ensemble, dans leur nature et dans leur but aussi. Et quand on fait ça, en tant qu'Église, on reflète qui Dieu est. Monsieur Tozer, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui est un pasteur de l'Alliance chrétienne des missionnaires à Chicago, dans les années 1900, dans son livre « Quand il sera venu », parle de certaines personnes, dans le fond, qui n'aimeront pas le fait de participer à une église qui est remplie du Saint-Esprit. Et voici quels sont ces genres de personnes. Les gens qui séparent l'église du reste de leur vie, numéro un. Eux, ils n'aimeront pas qu'on entende parler du Saint-Esprit en nous. Les gens qui refusent à la religion de remettre en question leur façon de vivre. Les gens qui veulent les avantages de la croix sans la direction de la croix. Les gens qui épousent la cause d'une église pour ses valeurs culturelles. Tout ça, c'est des personnes qui, dans le fond, selon lui, selon Tozer, c'est des personnes qui ne seront pas à l'aise dans une église où est-ce qu'on cherche vraiment à être rempli du Saint-Esprit, on cherche vraiment la direction du Saint-Esprit, parce que ce type de personnes-là fait, dans le fond, une distinction précise entre le dimanche matin et le reste de la semaine. Pour eux, c'est deux domaines complètement séparés. Est-ce que vous avez vu le DVD « Not a Fan » avec le pasteur Kyle Idleman? Certains d'entre vous l'avez vu? Non? J'ai écouté ça cette semaine, très bon. Une des choses qui me frappe au début de son DVD, qui est comme un peu une histoire dans laquelle le pasteur s'insère puis il prêche au travers. C'est vraiment intéressant. Au début de l'histoire, il dit, à un moment donné, j'ai reçu un email d'une personne qui voulait quitter l'Église. Et la raison pour laquelle il me dit que, en fait, il a pas donné de raison dans l'email. Fait que là, le pasteur, évidemment, a été cogné à la porte de la maison de la personne, puis il voulait savoir pourquoi il quittait l'Église, etc. La personne a dit, ben j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu prêches, tu veux interférer avec ma vie. Et là, tout ça, toute cette anecdote-là, a suscité dans l'esprit du pasteur une réflexion à savoir, c'est quoi la différence entre un admirateur de Jésus, quelqu'un qui dit, oh oui, Jésus, c'est un homme sage, un homme avec des belles valeurs, qui a parlé d'amour, etc. Quelle est la différence entre une personne qui admire Jésus et qui suit Jésus, un disciple et un fan de Jésus? C'est quoi la différence? Et là, il y a une belle histoire qui est racontée d'un homme qui était un chrétien, engagé avec toute sa famille dans l'Église jusqu'à un certain point, et qui, mais en fait, vivait un style de vie qui était complètement différent le dimanche matin et le reste de la semaine. À un moment donné, l'homme fait une crise de cœur, de laquelle il ne meurt pas, mais le Seigneur s'en sert pour le faire réfléchir à savoir quel genre de vie il veut vraiment vivre. Tu sais, puis au bout de la ligne, quand il va être devant Dieu et qu'il va devoir rendre des comptes, est-ce qu'il veut avoir un style, il veut avoir le genre de vie qu'il est en train de vivre ou quelque chose qui ressemble plus à un disciple de Jésus? Et c'est vraiment intéressant. En tout cas, je vous le recommande vraiment. Not a fan de Cal Idleman. Et c'est vraiment intéressant parce que à la fin, il y a toutes les petites scènes là, des DVD là, qui sont comme les extras, là, etc. Les bloopers, tout ça. Puis j'étais curieux, j'ai été voir. Puis le pasteur, Cal Idleman, il disait à Mané que pour une prédication un dimanche matin de Pâques, il réfléchissait à son sermon qu'il allait faire, parce qu'évidemment, à Pâques, il y a plein de personnes qui viennent voir, qui viennent à l'église, qui viennent pas en temps normal, donc il voulait essayer d'avoir un sermon qui allait attirer les gens. Et il s'est dit, je vais regarder comme qu'est-ce que Jésus faisait avec les grandes foules. Puis il s'est rendu compte que Jésus, avec les grandes foules, il essayait pas d'attirer encore plus d'attention. Au contraire, il les décourageait de le suivre, en parlant du coup qui était attaché à une marche avec Christ. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu la grandeur de son église. Comme on a vu un moment donné, dans son église, puis il est en train de réfléchir à son sermon qu'il va porter. C'est tellement grand, c'est incroyable. J'ai été voir sur Internet, son église a 30 000 membres. C'est la cinquième plus grande aux États-Unis.